Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Tous les jours vont à la mort, le dernier y arrive. Le célèbre philosophe à qui l'on doit cette citation sait de quoi il parle. La mort, elle s'est invitée plus d'une fois dans ses thèses et ses essais. Celui qui reconnaît volontiers que philosopher, c'est apprendre à mourir, a porté l'amour de la vie plus haut encore, tout en parlant beaucoup de la mort. Je vous raconte maintenant Michel de Montaigne. Nous sommes en France à la fin des années 1570. Alors que dans le royaume, une énième guerre civile entre catholiques et protestants fait rage, un gentilhomme impliqué dans les affaires de l'État s'est pour un temps retiré sur ses terres de Dordogne. Il s'y consacre à la gestion de son domaine et à une autre activité plus chronophage encore, l'écriture. Depuis quelques années, ce propriétaire terrien de près de 50 ans, ancien magistrat, travaille une œuvre littéraire d'un genre original, sorte de recueil introspectif de ses pensées, de ses réflexions et de ses souvenirs. Ne sachant pas trop dans quel genre le classer et n'ayant pas la prétention de se considérer comme un savant, il l'a sobrement intitulé « Les Essais ». Michel Ekem de Montaigne, seigneur de Montaigne, passe des jours entiers dans son château de Dordogne à lire, à rêvasser, à se plonger dans ses souvenirs, à prendre des notes. Ces derniers temps, c'est le souvenir d'une personne en particulier qui l'occupe, car il a décidé de lui consacrer un chapitre tout entier. C'est une personne d'une importance fondamentale pour lui. Le chapitre, d'ailleurs, est un peu celui autour duquel toute son œuvre s'articulera. Sans cet homme, son grand projet d'écriture n'aurait sans doute jamais vu le jour. Mais comment l'évoquer avec suffisamment de force, se demande Montaigne. Comment décrire l'immensité de la peine ressentie ce jour funeste du 18 août 1563, alors que lui-même n'avait que 30 ans. Les mots lui manquent. Il couche ceux d'un autre sur le papier. « Ô frère, quel malheur pour moi que ton trépas. Tu as emporté avec toi toutes mes joies que ta vie nourrissait d'amour tendre. En mourant, mon frère, tu as brisé tout mon bonheur. » À qui pense Montaigne en écrivant ces vers empruntés à Horace ? Il pense à son grand ami perdu, l'écrivain et poète Étienne de la Boétie. Les deux hommes se sont connus voilà près de 20 ans. Tous deux étaient alors des magistrats au Parlement de Bordeaux. Quatre merveilleuses années d'amitié interrompues brutalement par la mort de la Boétie en 1563, des suites probablement de la peste. Cette amitié entre les deux hommes n'a pas été une amitié banale. Un lien très fort les unissait. Dans ce même chapitre qu'il consacre à son ami à la fin du livre 1 des essais, Montaigne écrit « Ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont qu'accointances et familiarités. En l'amitié dans quoi je parle, les âmes s'entremêlent et se confondent l'une dans l'autre. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Sublime, n'est-ce pas ? Déchirante aussi. La mort de la Boétie à l'âge précoce de 32 ans est un grand traumatisme pour Montaigne, un traumatisme qui le hante encore des années plus tard et qui a été un tournant décisif dans sa vie. C'est elle, entre autres, qui le pousse presque 10 ans plus tard, à l'approche de ses 40 ans, à se lancer dans l'écriture des essais. Car l'ouvrage, véritable dialogue qu'il entame avec lui-même, est de l'avis des spécialistes une manière de compenser la perte de cet alter ego qu'était pour lui la Boétie. La mort, catalyseuse de cet immense ouvrage ? L'assertion est d'autant plus justifiée que Montaigne se lance dans ce projet d'écriture à la suite d'autres coups durs du destin. La mort de son père en 1568, puis celle en bas âge de 5 de ses 6 enfants. Tragédie, hélas, qui n'était pas rare au XVIe siècle. Montaigne se débat avec ses démons. La mort l'obsède. Comment l'accepter ? Comment vivre heureux à l'ombre de cette faucheuse qui peut surgir à tout moment ? Lui qui a été élevé dans la ferveur humaniste trouve du réconfort auprès des auteurs grecs. Il est séduit par la logique stoïcienne notamment, qui prône l'impassibilité, la mise à distance des sentiments et de la souffrance. Il lit aussi d'autres auteurs, d'autres philosophes antiques, les sceptiques, les épicuriens. Son but ? Atteindre la tranquillité de l'âme. Et progressivement, à force de chercher, de lire, à force de réfléchir, et sans même s'en apercevoir, lui-même devient philosophe. Il a le luxe du temps, ayant hérité du vaste domaine de son père, il en a les ressources nécessaires. Alors, il lit, il écrit, et ses notes se transforment peu à peu en gigantesque ouvrage pêle-mêle où 1000 sujets sont abordés, une sorte d'autobiographie introspective et philosophique. Le thème de la mort, évidemment, y tient une place prépondérante. Elle est mentionnée à de multiples reprises, notamment dans le livre 1 et le livre 3. Car philosopher, selon lui, c'est apprendre à mourir. Loin d'une philosophie pessimiste, Montaigne défend un épicurisme qui sauve l'homme du désespoir, où l'amour de la vie doit être plus fort que la mort. Alors Montaigne veut apprendre, et il cherche dans ses propres expériences les enseignements qu'il y a à tirer. La chute de cheval, suivie d'une syncope dont il est victime aux alentours de l'année 1574, le rassure quelque peu. Car considérant l'épisode comme une sorte d'expérience de mort imminente, il l'a trouvée paisible et douce. Son obsession néanmoins ne semble pas faiblir, d'autant qu'à partir de 1578, les calculs rénaux dont il souffre et qui sont le symptôme de la même maladie qui a tué son père lui causent bien des tracas. Dans le livre 3, qu'il ne commence à rédiger qu'après ses mandats de maire de Bordeaux au milieu des années 1580, il évoque aussi une autre pensée qui le console, celle d'une mort moins entière, moins nuisible, si elle est vécue à un âge avancé. Selon lui, la perte d'une dent ou même de son ardeur virile sont des formes de mort progressive. C'est le seul bénéfice de la vieillesse, écrit-il. La dernière mort ne tuera plus qu'un demi ou un quart d'homme. Est-ce ainsi qu'il vécut sa propre mort à l'âge de 59 ans ? Selon le témoignage d'un ami, il l'a vécu en tout cas avec douceur et dans son lit. Peut-être avait-il enfin réussi à faire la paix avec elle. Ses écrits les plus tardifs semblent en témoigner. Puisqu'il avait décidé de ne plus trop y penser, de suivre l'exemple de ses paysans voisins qu'il ne vit jamais réfléchir à cette heure dernière. L'expérience lui avait appris à ne se préoccuper que du bonheur de la vie. C'est d'ailleurs sur cette vision très épicurienne que les essais s'achèvent. Et notamment sur cette phrase, restée dans les annales de la philosophie, « C'est une perfection absolue et pour ainsi dire divine que de savoir jouir de son être. »
Europe 1, historiquement vôtre.